Sébastien Lecornu parle de semi-échec et semi-succès. Donald Trump lance une machine de guerre avec son conseil de paix, une ONU bis totalement à la main du président américain. Et puis Nestlé à nouveau dans la tourmente. Après les eaux contaminées, la marque doit rappeler ses laits pour bébés.
Après le journal, l'éditorial de François Vidal, suivi des voix de l'économie avec Karine Charbonnier, présidente de Beck Industries. Il s'y est résolu avec regret et amertume. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a officialisé un recours au 49-3 pour faire passer sans vote le budget de l'État.
Après des semaines de négociations entre les groupes, le gouvernement est parvenu à une copie et après plusieurs concessions faites aux socialistes, il devrait donc parvenir à un accord pour ne pas être censuré. Et si le Premier ministre concède un semi-succès, semi-échec, eh bien les socialistes, eux, assument d'avoir négocié avec le gouvernement. Et tant pis si le reste des partis de gauche n'est pas de cet avis. Le député socialiste Jérôme Guedge.
On va être dans la surenchère des zoukas et des invectives. On va nous traiter de sociotraites, de béquilles, de supplétifs. Je fais pas la fine bouche à un moment donné. Quand le gouvernement répond à certaines des demandes que nous avons mises sur la table depuis des mois, notamment en termes de pouvoir d'achat, de renoncement à des mesures d'économie un peu injustes sur des services publics, sur le logement, qu'il répond à une vieille demande des socialistes, le repas pour les étudiants à 1 euro, qu'il met une mesure massive d'augmentation du pouvoir d'achat, notamment pour les gens autour du SMIC avec l'augmentation de la prime d'activité, c'est la logique du compromis. Nous, notre seul intérêt, c'est de servir les Français et de ramener des améliorations de leur vie quotidienne.
Sans vote donc, et on l'a bien compris, l'objectif de l'exécutif était d'avoir un budget avant la fin du mois de janvier. Mais là encore, victoire force et compromis.
Car le chemin est encore long et le 49-3 sera activé au moins 3 fois. Alors les parlementaires du camp présidentiel serrent les dents. C'est ravageur pour la crédibilité de la parole politique, exprime un cadre du parti. Cet après-midi, Sébastien Lecornu va d'abord engager la responsabilité du gouvernement sur la partie recette du budget, la P1 dans le jargon du Palais Bourbon. Les oppositions pourront déposer leur motion de censure, examinée a priori jeudi ou vendredi. Le Premier ministre, s'il n'est pas censuré, utilisera une seconde fois le 49-3 sur la partie dépenses cette fois-ci. Le texte ira ensuite au Sénat, et là, la droite sénatoriale a le pouvoir de faire traîner un peu la procédure, manière par exemple de marquer son opposition au texte. Quand il sera de retour à l'Assemblée, troisième et dernier 49-3 sur l'ensemble de la copie. Ce qui présage d'un budget promulgué autour de la mi-février.
Et on vient de l'entendre, les motions de censure seront déposées dans la journée, une par la France Insoumise, l'autre par le Rassemblement National. Dans le reste de l'actualité, maintes fois reportée, la réforme de la fin de vie revient au Sénat aujourd'hui. Deux textes sont examinés en parallèle, l'un plutôt consensuel sur le développement des soins palliatifs, l'autre plus délicat qui légalise un dispositif de suicide assisté et d'euthanasie.
Guillaume Tabar y reviendra à 8h10. L'actualité à l'étranger, il y a un an, Donald Trump prêtait serment.
Il redevenait président des États-Unis et depuis, on a eu l'impression que le monde était tombé dans le tambour d'une machine à laver. Guerre économique, enlèvement de Maduro, menace sur le Groenland, bouleversement de l'ordre mondial. Dernière lubie du président américain, promouvoir son conseil de paix, une sorte d'ONU bis totalement à sa main pour œuvrer à la résolution des conflits dans le monde entier. Fabien Albert.
Un conseil de paix made in Trump. Chaque État membre le sera pour 3 ans maximum, à moins de déverser plus $1 milliard et obtenir un siège permanent. En tant qu'autoproclamé premier président de ce conseil, Donald Trump sera le seul à pouvoir inviter d'autres pays à la table, le seul à pouvoir révoquer un participant, le seul à avoir un droit de veto si une décision prise par la majorité des membres ne lui convient pas. Le président de ce conseil de paix désignera son successeur, ne pourra pas être remplacé, sauf en cas de démission. Il ne pourra pas être renversé non plus, à moins que le conseil exécutif, qu'il aura lui-même formé, le décide à l'unanimité. Washington appelle les autres pays à avoir le courage de sauter le pas en s'écartant des Nations Unies qui ont trop souvent échoué, estime l'administration américaine. La charte du Conseil de paix est censée entrer en vigueur quand 3 premiers pays l'auront ratifiée.
Et j'ajoute que la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a dit hier soir ne pas donner suite favorable à cette invitation. Ce Conseil de paix qui est encore très loin de la charte des Nations Unies, voilà ce que dit le Quai d'Orsay, est vexé. Donald Trump menace ce matin de taxer de 200% les vins et champagnes français. Et depuis sa présidence, les Français justement sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des États-Unis. Selon un sondage IFOP publié ce matin, 51% d'entre eux estiment que le pays sera dans les années à venir, les États-Unis, une menace militaire pour la France.
Et on en vient à cette affaire de bébé tombant malade avec du lait Nestlé. Des parents ont alerté les autorités.
La multinationale a dû rappeler des lots de lait Gigos et Nidal dans une 60aine de pays. Par crainte d'une contamination avec au moins 10 usines impliquées. En cause, la contamination de ces laits par une toxine qui provoque des vomissements et des diarrhées chez les bébés. Nestlé affirme qu'il s'agit surtout d'une mesure de précaution, mais certains parents ont alerté les autorités sur des symptômes développés par leurs enfants. Nina Droff.
C'est via une huile utilisée lors de la fabrication que la toxine aurait contaminé le lait. Une toxine appelée céréulide qui résiste à la chaleur. Jean-Paul Stahl, spécialiste des maladies infectieuses.
C'est vraiment une bactérie extraordinairement répandue. C'est responsable de toxi-infections alimentaires qui se manifestent par les vomissements et la diarrhée. Il y a quelques formes graves qui existent, même si c'est rare, chez les nouveau-nés. Parce que les nourrissons qui vomissent et qui ont la diarrhée en même temps, ils se déshydratent. C'est le vrai risque en fait.
Nestlé assure qu'à ce stade, il n'y a aucun cas d'enfant malade en lien direct avec les produits rappelés. Mais certains parents s'interrogent, leurs enfants ayant développé des symptômes après avoir bu ce lait potentiellement contaminé. Pour Camille Dorios, directeur des campagnes pour l'association Foodwatch, ces signalements sont préoccupants, même s'il est difficile d'établir un lien direct pour le moment.
Il y a plusieurs difficultés, c'est que les symptômes ressemblent à beaucoup de symptômes que pourrait avoir un nourrisson. Et du coup, il est très difficile de faire le lien. Le seul moyen, c'est évidemment de tester le lait en poudre, de vérifier s'il y a la toxine dedans. Il n'y aurait qu'un seul laboratoire capable de faire ces tests. Vous imaginez bien que ça ralentit l'enquête menée par les autorités de santé publique en France.
Foodwatch incite les parents qui ont des suspicions à bien conserver les boîtes de lait consommées. Des associations envisagent de saisir la justice.
Le créateur de mode italien Valentino est décédé hier. Il était âgé de 93 ans. Il avait pris sa retraite en 2008. Valentino s'était fait une spécialité d'habiller et de sympathiser avec le tout Hollywood, d'Elizabeth Taylor à Ava Gardner en passant par Sharon Stone et Julia Roberts. Et puis vous avez peut-être observé cette nuit qu'une tempête solaire avait touché la Terre. Cela a provoqué une tempête géomagnétique de niveau 4 sur 5, ce qui fait craindre des perturbations des satellites, des communications et des réseaux électriques. On n'avait plus vu ça depuis 2003, mais le côté positif, c'est l'apparition d'aurores boréales là où on ne les attendait pas. Vous verrez peut-être des images sur les réseaux sociaux au-dessus des Alpes, au-dessus de la Bretagne, notamment un spectacle pour les yeux.
La Bretagne, chère à votre cœur, ma chère Lénaïque, vous revenez à 8h pour un autre journal. Le budget, on en voit la fin. Le 49-3 pour adopter ce budget 2026, certes, mais quelle est l'utilité économique du budget? L'analyse critique à suivre de François Vidal. Radio Classique, il est 7h07.
Améliorez votre expérience d'écoute de Radio Classique grâce au DAB+. Bénéficiez d'une qualité sonore exceptionnelle et de données plus complètes sur la programmation musicale. Une radio gratuite, en qualité numérique, sans abonnement ni connexion Internet. Radio Classique vous accompagne en haute définition grâce à la technologie DAB+.
Union des coopératives agricoles françaises, Invivo s'engage pour une agriculture résiliente, souveraine, rentable et durable. Invivo accompagne la transition agricole et soutient notre souveraineté alimentaire avec des solutions innovantes et responsables au service des agriculteurs. Avec Invivo, cultivez vos connaissances éco dans le décryptage à 7h54 sur Radio Classique.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trousse, c'est moi ou t'as pris du muscle?
Ah non, j'ai croisé Météo ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météo, c'est le début. Elle n'est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Courrier International présente Goodbye America. En un an, à la Maison-Blanche, Donald Trump a sapé les fondements de la démocratie américaine. Une dérive autoritaire accompagnée d'une révolution culturelle qui bouleverse le pays. Comment en est-on arrivé là? Comment les Américains le vivent-ils? Un hors-série de Courrier International, en vente chez votre marchand de journaux.
Chaque jour, Marie pense à sa maman Françoise, 84 ans, qui lui assure être en pleine forme et dit ne pas avoir besoin d'aide. Pourtant, Marie sait bien que Françoise se sent seule et que les semaines sont parfois longues. Marie fait alors appel à Petit-Fils. Et depuis, sa maman se réjouit tous les jours de se promener au bras de son auxiliaire de vie.
Petit-Fils accompagne en douceur les grands-parents dans leur quotidien. Petit-Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit-Fils.com.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
7h09, l'éditorial de l'économie avec les échos.
Avec Valtus, présent dans 28 pays, notre objectif,
votre réussite.
Bonjour François Vidal.
Bonjour David.
Le feuilleton budgétaire approche enfin de son terme. Afin de faire adopter le budget 2026, Sébastien Lecornu va engager cet après-midi la responsabilité de son gouvernement.
Nous y voilà, hein, après 4 mois de débats stériles et d'invectives, le pays va enfin se doter d'un budget. Le Premier ministre nous dit que c'est une bonne nouvelle sur l'ère du tout, plutôt que de basculer dans le chaos institutionnel d'une France sans loi de finances. Un discours auquel on adhère, évidemment, à condition de ne pas s'intéresser aux détails du texte. Car le compromis négocié avec le Parti Socialiste et le Sénat aboutit à un triple renoncement. Une réduction drastique des économies prévues initialement, l'ajout dans la dernière ligne droite de nouvelles dépenses sociale et le tout au prix d'une pression fiscale accrue sur les entreprises par rapport à la copie d'origine. Sans même parler de l'abandon de la réforme des retraites, ce sont tous les curseurs responsables de la dégradation des comptes publics qui sont poussés encore un peu plus loin.
Et le président du MEDEF, Patrick Martin, a donc raison de dire dans les Échos ce matin que c'est le choix du court terme.
Mais c'est en tout cas aux producteurs de richesses, c'est-à-dire les entreprises, que l'on va demander l'effort le plus important, et pas uniquement aux grands groupes à travers le maintien de la surtaxe temporaire d'IS, mais à l'ensemble des sociétés, puisque la baisse d'1 milliard promise sur les impôts de production est passée aux oubliettes. De quoi peser sur la compétitivité de toutes les entreprises et réduire leurs perspectives de croissance. Pour cette année, mais pas seulement, car personne n'imagine que le prochain budget, celui de 2027, qui sera débattu en pleine campagne présidentielle, pourra marquer un retour à la discipline budgétaire. Nous sommes donc partis pour 18 mois de statu quo au minimum, de quoi plomber durablement l'économie française.
Et c'était François Vidal pour l'éditorial avec les Échos qui titre un an après Le Monde selon Trump. L'opinion, quand elle lui parle du budget de tous les renoncements, quant aux Parisiens, ils se demandent qui va payer la note. Radio Classique, 7h11. Tout de suite, les voix de l'économie. Ras-le-bol, les fraudes fiscales chez les patrons et les entrepreneurs. On en parle avec l'invité de Stéphane Pedrazzi.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Stéphane, votre invitée, c'est l'ancienne présidente de Beck Industries. Elle est investisseuse, elle est membre du collectif Trop c'est trop et elle a publié en 2016 « Patron, tenez bon ».
Avec Delsol Avocat. Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
Bonjour Karine Charbonnier.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Classique. Sébastien Lecornu va finalement utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter son budget 2026. Le texte final est loin de l'objectif initial en termes de mesures d'économie. Il est loin aussi de ce qui était prévu au départ en matière de pression fiscale pour les entreprises et pour les investisseurs. Vous êtes une ancienne chef d'entreprise. Vous connaissez les réalités de terrain. Quel est votre sentiment ce matin ?
Oh, c'est une très grande inquiétude parce que la séquence des derniers mois a été une valse des démagogues, des idéologues qui ont répondu des contre-vérités pour préparer la taxation des entreprises qui sont devenues avec les investisseurs des entreprises les boucs émissaires. C'est quand on est paresseux, on trouve un bouc émissaire, on dit que c'est la solution magique et que tout ira bien. Et le réveil va être une immense gueule de bois. Dans les contre-vérités qui ont été évoquées, ça me paraît important de rappeler qu'il n'y a pas eu 200 milliards de cadeaux aux entreprises. C'est une contre-vérité totale. Les 200 milliards, c'est des baisses de TVA, des prêts, c'est plein de choses, mais pas des cadeaux. Au contraire, si on se compare à nos voisins européens, les entreprises payent 120 milliards de plus que leurs voisines. Donc s'il y a des cadeaux, c'est bien dans l'autre sens. Et donc faire croire aux électeurs que c'est en taxant plus qu'on va créer de l'emploi, qu'on aura de l'investissement, c'est grave.
Est-ce que vous avez le sentiment que le débat budgétaire a réellement été mené avec des arguments économiques ? Le président du MEDEF, Patrick Martin, parlait il y a quelques jours d'une cuisine politicienne qui accable les entreprises pour flatter l'opinion.
C'est exactement ce que je viens de dire. Je pense que les députés sont en pleine démagogie électorale, ne veulent pas avouer qu'ils sont incapables de trouver des solutions pour redresser notre pays. Et voilà le résultat aujourd'hui. Et c'est très, très inquiétant. J'ai lu la lettre aux entrepreneurs de Monsieur Lecornu, qui nous dit que il est vraiment désolé d'avoir renoncé à la baisse de la CVAE, mais que grâce à ça, on évite la réduction des allègements sur les charges sociales. Je répète que les allègements des charges sociales, c'est de l'impôt déguisé en France, c'est pas de la cotisation sociale. Et avoir découvert qu'on avait envisagé de supprimer ou de réduire les allègements sociaux, ça n'a fait que accroître mon inquiétude sur l'avenir de l'économie française.
La CVAE, on le rappelle, c'est l'un des principaux impôts de production en France. Dans le débat budgétaire, on a entendu un peu tout et n'importe quoi. Certains députés, notamment, ont comparé une taxe de 2% sur les actifs des holdings avec une taxe de 20% sur les bénéfices des entreprises aux États-Unis, pour tenter de nous expliquer au final que les entreprises étaient moins taxées en France qu'aux États-Unis. En réalité, les actifs d'une société n'ont absolument rien à voir avec les bénéfices, ce n'est pas la même chose. Comment est-ce qu'on explique qu'une partie de la classe politique ait aussi peu de connaissances en matière d'économie ?
Alors effectivement, Philippe Brun, ce week-end, sur France Info, a à nouveau dit qu'on devrait se réjouir que 2% c'était rien comparé à 20% de taxes sur les dividendes, enfin sur les résultats aux États-Unis. Pourtant, Monsieur Brun est quelqu'un qui est parfaitement éduqué. Donc, soit il n'est pas allé lire les textes américains, soit c'est de la manipulation. Entre incompétence et manipulation, je n'arrive pas à me décider, mais c'est extrêmement grave. Parce que le résultat, c'est qu'à la fin, on n'aura plus que des investisseurs étrangers dans notre pays, que tout. Parce que la fameuse taxe Luckman ou la taxe holding préparée par le gouvernement, par les fonctionnaires de Bercy qui ont eux-mêmes dit qu'ils s'inspiraient de la taxe américaine. Donc même Bercy est manipulateur dans ses propos. C'est une attaque sur les investisseurs français spécifiquement. Donc ça veut dire qu'on ne veut que des investisseurs étrangers dans notre pays.
Mais vous avez l'impression que le débat a surtout été mené par des idéologies plutôt que des arguments économiques. En France, l'idée d'aller faire les poches des plus riches plaît au plus grand nombre. Et ça a depuis pratiquement toujours été comme ça.
Ben oui, ben c'est la technique du bouc émissaire. C'est très confortable le bouc émissaire, c'est la baguette magique. Ça marche aussi bien à l'extrême droite que tout l'arc de gauche, hein, puisque M. Brun du Parti Socialiste, que de M. Lombard aussi ce week-end, notre ministre du Budget. Tout le monde rentre là-dedans pour masquer son incompétence.
En France, on dit souvent que la population n'a pas une culture économique très, très développée. C'est votre sentiment également ? C'est pour cette raison que tout ce qu'affirment les députés passe facilement dans l'opinion ?
Je me souviens plus bien, mais il me semble que j'ai lu des études internationales. Probablement que c'est testé dans PISA. La culture économique des Français est nulle. Elle est enseignée, je pense, de manière partisane. Il n'y a qu'à lire les livres scolaires. Et c'est grave, voilà le résultat.
Ouais. Le gouvernement a beaucoup insisté sur la nécessité d'avoir un budget. Pour autant, est-ce qu'il fallait accepter un budget à n'importe quelle condition ? La Belgique, l'Espagne notamment, ont fonctionné pendant des mois, des années, sans budget, sans pour autant que ce soit la catastrophe.
Oui, et je me souviens, puisque je suis frontalière de la Belgique, j'avais suivi l'année où il y avait eu 13 mois, je crois, sans budget. C'était l'année où la Belgique avait eu la plus forte croissance européenne. Donc,
et l'Espagne voilà, actuellement affiche la plus forte croissance européenne également. Ouais. Est-ce que vous pensez que ce serait finalement salutaire que le gouvernement soit censuré ? Ou est-ce que la raison l'emporte et il nous faut malgré tout un budget ?
Moi, mon état d'esprit, c'est qu'à la lumière des débats qu'on a eus au Parlement, voire même au Sénat, dans les médias, quand France Info ne reprend pas Philippe Brun quand il dit que 2% c'est rien par rapport à 20%, je me dis que je suis très inquiète pour ce qui va sortir de la prochaine présidentielle, parce que le travail de pédagogie à faire pour préparer les prochaines élections, pour avoir une ambition raisonnable de remettre notre pays dans une dynamique économique pour le bien du pouvoir d'achat, de l'emploi, c'est pas pour les patrons, c'est pour tout le monde. Il faut comprendre ça, parce que on dit les patrons, mais les patrons, c'est quoi ? C'est les entreprises, et les entreprises, c'est tout le monde. Et je pense qu'on est très loin. Donc, très sincèrement, entre Caribe et Silla, je ne sais pas.
Je vous sens totalement désabusé, abattu. Est-ce que la France est condamnée à aller dans le mur ? Est-ce que dans ces conditions, on ne peut pas réformer ce pays ?
Il faut que... Parfois, je me dis... Parce que ça fait des décennies que les entreprises françaises sont totalement surtaxées. Et parfois, je me dis, l'économie française, c'est devenu un magasin de porcelaine extrêmement fine qui est prête à casser parce qu'il n'y a plus de chair, il n'y a plus rien. Et on a des éléphants, là, dans le magasin de porcelaine qui sont prêts à tout casser, alors qu'on devrait avoir des adultes dans la pièce.
Merci beaucoup, Karine Charbonnier, pour votre témoignage ce matin. Ancienne chef d'entreprise, investisseuse et membre du collectif Trop, c'est trop.
Merci à tous les deux, Stéphane. À demain pour la matinale de l'économie. À suivre les coulisses de la politique et Emmanuel Macron qui cherche un moyen de reprendre l'initiative politique. Mais avant, et si nous parlions français, voici Karine Dijoux, Radio Classique, 7h19.
Vous aussi, vous cherchez ? Où et comment placer votre argent ? Pour vos placements en bourse ou en assurance vie, rien de plus simple avec Bourse Direct. Suivez nos formations, investissez, épargnez, le tout à moindre frais. Et ça, c'est important. Avec Bourse Direct, vivez vos placements autrement. Risque de perte en capital. Courtier d'assurance numéro Orias 08 044 344. Communication promotionnelle.
Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du nouveau SUV Citroën C3 Aircross et ses 7 places. Installez-vous confortablement dans votre siège Advance Confort et veuillez attacher votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
En janvier, évadez-vous avec le nouveau SUV Citroën C3 Aircross à partir de 199 euros par mois seulement. Citroën.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2500 euros, offre à particulier jusqu'au 31 janvier sous réserve d'acceptation crédit par détail sur citroën.fr. Pensez à covoiturer.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Bonjour Karine.
Bonjour David.
Aujourd'hui, les questions des auditeurs qui vous écoutent avec attention. D'ailleurs, depuis que vous êtes là, vous n'arrêtez pas de repérer les fautes de français qu'on peut faire à la rédaction ou à l'antenne. Merci à vous. Alors, question de Cécile du Havre. Entendu ce matin dans une publicité sur votre antenne, le nouvel hors-série. Je pense qu'on dit le nouveau hors-série et qu'un rappel ainsi qu'une incitation à vérifier les publicités serait utile.
Intéressons-nous à ce rappel à l'ordre. L'adjectif nouveau a pour féminin nouvelle, deux LE à la fin. Mais nouveau devient nouvelle EL au masculin devant une voyelle ou un H muet. Il s'agit ici de savoir si or commence par un H muet. Dit-on le hors-série ou l'hors-série ? Eh bien, la réponse vient naturellement, le hors-série, comme le hors-d'œuvre ou le hors-la-loi. Le déterminant le ne s'élide pas, c'est-à-dire que sa voyelle ne disparaît pas, ce qui signifie que le H est aspiré. Ainsi, vous avez raison Cécile, il faudrait dire le nouveau hors-série.
Qu'on se le dise. Stéphane de Nice vous écrit à son tour. Je me pose une question étymologique sur le nom lavandière. Ce sont les femmes qui lavent le linge au lavoir. Pourtant, quand on entend ce mot, on pense évidemment à la lavande. Pouvez-vous nous donner quelques éclaircissements ?
Vous avez raison, tous ces mots ont un sens commun. Le mot « lavandière » viendrait du provençal « lavandiera », désignant les femmes qui lavent le linge. Le mot « lavande », quant à lui, viendrait de l'italien « lavanda » qui signifie « lavage, toilette ». Mais on ne trouve cette forme en italien qu'au XVIe siècle, alors qu'on trouve la forme « lavande » avec un « e » en ancien français au XIIIe siècle. Le nom de cette plante est bien lié à l'utilisation qu'on en fait. Elle entrait dans la composition de produits liés à la toilette, savon, eau et huile.
Une dernière question de David de Paris, ça n'est pas moi. Hein. J'ai entendu la phrase « les agriculteurs ne décolèrent pas ». Est-ce français ? Peut-on dire « je décolère »,« tu décolères »,« nous décolérons », etc. etc.
Eh bien oui, c'est un verbe qui existe depuis le 19e siècle. Il signifie « cesser d'être en colère ». Il n'existe qu'en construction négative, comme dans la phrase citée. Un autre exemple, « elle n'a pas décoléré de la journée ». C'est un verbe du premier groupe, donc oui, on le conjugue ainsi, « je décolère »,« tu décolères », mais il faudra bien penser à l'employer avec une négation.
Donc on n'en a pas fini avec les agriculteurs qui ne décolèrent pas. Absolument. De même que les médecins généralistes et quelques autres. À demain Karine.
À demain.
Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundy dans la matinale de Radio Classique.
Toyota.
Production française qui se vend chaque année comme des petits pains. On dit que je suis fantastique. Je suis...
La baguette ? Le croissant ? Non, la Toyota Yaris Cross Hybride.
Oui, c'est la voiture la plus produite en France.
Et elle n'a jamais été aussi accessible. Pendant les reprises fantastiques, la Toyota Yaris Cross Hybrid est à partir de 239 euros par mois, entretien inclus. Yaris Cross Hybrid dynamique blanc pur à partir de 239 euros par mois, LLD 37 mois, 30 000 km, entretien inclus. Premier loyer, 4390 euros, réservé aux particuliers dans le réseau participant jusqu'au 2 février sous conditions de reprise. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Être libre. Libre d'entreprendre, de donner vie à ses projets, d'investir dans ce qui compte. Être libre, c'est aussi dépenser son argent sans se justifier. Bougardier présente le PLP, le prêt libre patrimoine. Grâce à la valeur de votre patrimoine immobilier, le PLP vous permet de libérer une trésorerie de confort à partir de 100 000 euros. Avec le PLP, votre argent vous obéit enfin. Découvrez le nouveau prêt libre patrimoine sur bougardier.fr. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Alors on entend de plus en plus parler de souveraineté numérique et vous nous présentez justement Private Discuss.
Private Discuss, c'est la solution de visioconférence. C'est ergonomique, c'est performant, cybersécurisé et surtout c'est 100% français. Nous garantissons la stricte confidentialité des données de nos clients, contrairement aux géants du marché.
Private-discuss.com, la visioconférence française. Merci beaucoup Sébastien Chabal.
Référence du service aux entreprises, GSF Propreté et Services s'allie à Pénélope, leader de l'accueil, pour proposer une offre complète de prestations. Des solutions intégrées et sur mesure, essentielles à la performance de vos environnements professionnels. GSF et Pénélope unissent leur savoir-faire et éclairent les rendez-vous échos de la matinale de Radio Classique.
Dans un instant, les coulisses de la politique avec Marcelo Westfred. Comment le président de la République va-t-il reprendre l'initiative ?
Distingo Bank, l'épargne en toute simplicité.
Épargne, les taux des livrets continuent de baisser. Les rendements reculent mois après mois et la tendance semble se confirmer.
Oh là, encore une mauvaise nouvelle. Heureusement, moi, j'ai mon livret Distingo Bank. Stable, prévisible et sécurisé.
Les épargnants s'inquiètent d'une perte progressive de rendement.
C'est pourtant simple. Direction distingobank.fr. En ce moment, il y a un taux boosté et une prime de bienvenue en plus.
Offre soumise à condition, taux promotionnel en vigueur pendant 3 mois dans la limite du plafond. Voir conditions sur distingobank.fr.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Marcelo Westfred à 7h26 pour les coulisses de la politique et avec Le Parisien aujourd'hui en France. Bonjour Marcelo.
Bonjour David.
Ce mardi, Emmanuel Macron se rend au Forum économique de Davos. Il y aura beaucoup de monde, des chefs d'État, Donald Trump, etc. Et jeudi, il sera mobilisé par un Conseil européen extraordinaire, accaparé par l'international. Le chef de l'État ne perd pas espoir, toutefois, de retrouver la faveur des Français.
Il l'a dit à ses proches à la rentrée, je vais trouver un second souffle, vous verrez, je vais remonter sur le ring. Alors pour l'heure, sa cote sondagière ne décolle pas, mais il est persuadé que la messe n'est pas dite. Il a mis trois thèmes dans l'atmosphère. L'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, qui va être examinée bientôt. Le retour d'une forme de service national à partir de septembre. Et puis, sur la fin de vie, le dossier est en ce moment au Sénat. Mais si la loi s'enlise, Macron a promis un référendum.
Alors, ça reste trois dossiers qui vont prendre un peu de temps avant que les Français en voient les effets.
Alors justement, l'idée n'est plus d'inverser la courbe, mais de travailler à ce que les anglo-saxons appellent la legacy, la trace dans l'histoire, autrement dit, le jugement posthume en quelque sorte.
Bah, l'héritage en fait.
L'héritage.
L'héritage, oui, Karine Dijoux nous écoute, faites attention.
Attention, elle va. Je vais avoir une conversation privée. Alors je cite ce que dit un de ses confidents du président, quand les Français verront l'offre pour la prochaine présidentielle, ils verront le contraste entre le niveau de Macron et les prétendants en lice. Et là, ils seront indulgents sur son action. D'ailleurs, ce soir, France 2 diffuse un documentaire sur l'action internationale du chef de l'État. Le président a embarqué avec lui des journalistes en coulisses pendant un an. Et on voit même dans ce documentaire Macron se laisser filmer pendant qu'il téléphone à Donald Trump en compagnie de Zelensky. L'échange est enregistré à l'insu du président américain. Une petite entorse aux règles pour vanter le rôle de Macron sur la scène mondiale.
Son héritage, justement, la fameuse legacy, mais on va dire héritage, ne risque pas d'être parasité par ce budget qui tape fort sur les entreprises.
Alors oui, c'est l'éléphant dans la pièce, si vous me permettez l'expression. Si on avait pu s'en passer de ce budget, on s'en serait passé, dit un proche du chef de l'État. Il n'empêche, grande entreprise taxée, renoncement à la baisse des impôts de production, la politique pro-business qui était au cœur de la promesse du macronisme vient d'être sacrifiée sur l'autel d'un accord de coulisses avec le Parti Socialiste. Et ce renoncement, il sera aussi inscrit dans son héritage.
Les coulisses de la politique avec Marcelo Westfred en français et dans le texte. Et Le Parisien aujourd'hui en France. À demain, Marcelo. Radio Classique, il est 7h28. Voici la météo suivie du journal de Charles Bonner. Charles Bonner, bonjour.
David, bonjour.
Moins de pluie, mais toujours des nuages.
Moins de pluie dans le Roussillon et en Corse, mais des cours d'eau toujours en crue. On garde donc deux départements en vigilance. Orange pour cette raison, Hérault et Aude. Ailleurs, le gel est de retour ce matin dans le nord-est. Cet après-midi, ce sera plus ensoleillé. Les températures au meilleur de la journée, 3 à Strasbourg, 11 à La Rochelle et 15 à Ajaccio.
KPMG présente, grâce à nos ETI, Fabrice Lundy.
Le Nantais Altine est spécialisé dans la rénovation énergétique des bâtiments, audit, conception, réhabilitation, solutions pour réduire la consommation d'énergie dans l'immobilier et à la tête du groupe Alban Lapierre.
Grâce à mon ETI, vous, en tant que particulier, utilisateur de bâtiments, salarié d'immeubles de bureaux, vous serez en capacité de réduire vos factures énergétiques et vos consommations d'énergie, et vous serez également en capacité de réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous aurez des bâtiments moins chers à leur utilisation, moins émetteurs de carbone, et puis plus résilients au changement climatique. Altin veut être la première société de services en efficacité énergétique, qu'on appelle ESCO dans le modèle anglo-saxon, en capacité de répondre à tous les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques.
Une ESCO. Alban Lapierre, le président d'Altin Group.
KPMG s'engage pour une nouvelle prospérité plus durable et responsable grâce à sa présence dans tous les territoires. 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Charles Bonner pour le journal de 7h30.
Avec à la une ce matin la guerre psychologique en plein hiver. Comme depuis 3 ans, la Russie vise les infrastructures énergétiques de l'Ukraine pour faire plier sa population. Les États-Unis et l'Europe installent un bras de fer sur le Groenland où la population sur place commence à s'inquiéter de l'ambition de Donald Trump d'en prendre le contrôle. Et puis un nouvel accord signé sur la Nouvelle-Calédonie, un complément à l'accord de Bougival de cet été.
Après le journal L'Écho du Monde, la nouvelle idée du président américain, un conseil de la paix, pas simplement pour Gaza, non, pour le monde, à côté de l'ONU. Explication avec Christian Macarian, juste après. Retour sur les colères des patrons et des entrepreneurs dans le journal imprévisible. À Kiev, en Ukraine, les températures sont glaciales, moins 14 la nuit, moins 8 la journée.
Et la Russie en profite, comme tous les hivers depuis le début de la guerre en 2022, pour frapper les infrastructures énergétiques. Une nouvelle fois, ce matin, priver la population ukrainienne d'électricité et de chauffage. Des centaines de milliers d'habitants de Kiev, la capitale, sont donc dans le noir et dans le froid, Servane de Pastre.
Dans la cuisine de son logement, à Kiev, Tiphaine Henry regarde son thermomètre.
Bah oui, c'est 12, voilà. C'est 12 pour l'instant dans la cuisine.
À peine 12 degrés, ça fait 10 jours que le chauffage fonctionne au ralenti.
On a de bonnes couvertures, donc la nuit, finalement, on supporte pas trop mal. J'ai de grosses chaussettes. J'ai même gardé pour l'instant mon écharpe sur ma tête.
Face à ce froid glacial, les écoles de la capitale ukrainienne seront fermées jusqu'au 1er février. Mais pas l'école française internationale de Kiev que dirige Tiphaine Henry.
Pour pouvoir offrir aux enfants des conditions qui peuvent être meilleures que chez eux, pour offrir aussi à l'équipe la possibilité de travailler dans des conditions meilleures.
Le froid est une véritable arme, explique la journaliste Tetiana Ogarkova, et ça, l'armée russe l'a bien compris.
Ils ont frappé au moment justement où le froid était en train de s'installer. Leur calcul est de créer une situation insoutenable. Dans leurs idées, la population va faire pression sur gouvernement pour que on accepte les conditions russes, etc.
Mais la population résiste, tous comptent désormais les jours jusqu'au printemps, synonyme de délivrance.
Servane de Pastre, là-bas aussi il fait froid, moins 12 à Nuuk, la capitale du Groenland, où les manifestations continuent contre la volonté d'annexion de Donald Trump, qui n'exclut toujours pas d'intervention militaire. Il annonce à l'instant une réunion des différentes parties à Davos, où il sera demain. Le Danemark refuse d'évoquer et une vente, malgré la pression des droits de douane. La population du Groenland est de toute façon largement opposée à l'idée de devenir états-unienne. Hélène Frédéricksen vit dans le sud du Groenland, à Kassiarsuk, à proximité d'une ancienne base américaine. Institutrice à la retraite, elle se dit aujourd'hui inquiète.
La première fois qu'il a parlé du Groenland, nous avons ri et nous avons cru à une blague. Mais nous voyons maintenant que c'est sérieux et nous sommes très inquiets. Je me sens mal à l'aise parce que je ne sais pas quand il prendra le contrôle, s'il le fera vraiment et dans quel état nous retrouverons notre pays. J'espère vraiment que quelqu'un dans son gouvernement l'arrêtera et que nous pourrons continuer notre vie. Nous ne voulons pas être américains.
Un témoignage recueilli par Marc Tédé. Tout le monde est libre d'y adhérer, mais sous la contrainte, la France refuse de participer au Conseil de la paix de Donald Trump. Un conseil créé à l'origine pour gouverner Gaza, mais qui est finalement présenté comme un concurrent des Nations Unies. Ticket d'entrée 1 milliard de dollars. Face au refus d'Emmanuel Macron, Donald Trump menace ce matin de taxer taxer à 200% les vins et les champagnes français. On y revient après ce journal dans l'écho du monde de Christian Macarian.
Radio Classique, 7h34. Sébastien Lecornu se résout à utiliser le 49.3.
Ce sera cet après-midi pour la partie recette du budget. Le Premier ministre doit passer sans vote, faute de majorité, quitte à risquer une censure. Deux motions seront déposées par les Insoumis et le RN. Les écologistes n'ont pas encore tranché. En tout cas, ce budget n'est pas la victoire que revendiquent les socialistes, selon la présidente des députés écologistes, Cyrielle Chatelain.
Ce budget-là n'est très clairement pas un budget de victoire sociale. C'est à l'inverse un budget qui sera extrêmement rigoureux et qui échoue sur un aspect, qui est la question de la justice fiscale et la répartition des ressources. Au final, on ne sait toujours pas la photographie globale de ce budget. On voit bien qu'il fait toutes les annonces qui pourraient finalement être plutôt positives et qui nous cachent le coût de la facture, notamment en termes de coupes sur les services publics. Nous ne sommes pas dupes. Je ne vois pas comment on pourrait appeler ça une victoire.
Un propos recueilli par Victoire Fort. Alors sur le fond, le budget vise un déficit à 5% du PIB, avec notamment le prolongement d'un an de la taxe sur les bénéfices des 300 plus grandes entreprises, c'est-à-dire pas sur les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Le MEDEF est en colère. L'UDP, les entreprises de proximité, sont soulagées. Michel Picon est le président.
Sans budget, les difficultés des entreprises, elles sont fortes. Hein. Dans le bâtiment, les gens attendent les décisions qui seront prises sur MaPrimeRénov', dans les collectivités locales, les commandes publiques. Alors ce budget, il n'est pas miraculeux, mais dans les conditions dans lesquelles le Premier ministre a dû le négocier, bien, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu mieux faire. Hein. On ne peut pas, pendant des mois et des mois, réclamer un budget au moment où ce budget vient et qu'il préserve les petites entreprises, ne pas être satisfait de voir le bout du tunnel.
Michel Picon avec Zoé Pallier. Au Parlement, c'est le retour du débat sur la fin de vie. Au Sénat, aujourd'hui, en séance publique, où la majorité est bien plus conservatrice qu'à l'Assemblée nationale, les débats vont durer une semaine jusqu'au vote. Ce sera le 28 janvier. Rémi Pfister, les débats vont porter sur deux textes.
Le premier texte, largement consensuel, vise à renforcer l'offre de soins palliatifs partout en France. Le second, beaucoup plus débattu, porte sur la création d'un droit à l'aide à mourir. Il prévoit d'autoriser, dans un cadre strictement défini, une assistance médicale à mourir pour des personnes atteintes d'une maladie grave et incurable. La demande devrait être validée par un collège de médecins et l'injection létale pourrait être réalisée par le patient lui-même ou, s'il en est incapable, par un soignant. Ce texte ne parle pour l'instant ni de suicide assisté, ni d'euthanasie, mais il en pose le principe. En commission, au début du mois, les sénateurs ont fortement resserré les conditions de cette aide active à mourir. Désormais, le pronostic vital doit être engagé à très court terme, de quelques heures à quelques jours. Ce qui a changé, puisqu'en mai dernier, à l'Assemblée, les députés s'étaient prononcés pour que les malades puissent demander une aide à mourir dès que leur souffrance physique et psychique devenait insupportable. Les partisans du projet initial dénoncent un texte édulcoré de toute sa substance. Le sujet continue de diviser profondément les élus et la version finale reste incertaine.
Rémi Pfister. Un nouvel accord pour la Nouvelle-Calédonie après Bougival cet été qui prévoit la création d'un État calédonien dans la Constitution française. Un complément est signé, un accord qui porte le nom d'Élysée Oudinot en référence à l'adresse du Palais de l'Élysée et du ministère des Outre-mer. Pierre Pilet, les forces politiques négociées déjà depuis 4 jours.
Le texte paraphé hier est un accord institutionnel et économique. La reconnaissance de l'identité kanak est réaffirmée. Les signataires soutiennent le droit à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. Un volet est consacré au soutien financier que l'État va apporter à l'archipel. Par ailleurs, les élections provinciales doivent avoir lieu avant le 31 décembre de cette année, selon le texte, scrutin déjà reporté 4 fois. Le plus dur reste à faire, déclare le député loyaliste de Nouvelle-Calédonie, Nicolas Metzdorf. L'accord d'hier n'a pas été signé par le FLNKS. Le principal mouvement indépendantiste de l'archipel n'a pas participé aux discussions. Un projet de loi constitutionnelle doit maintenant être adopté, créant un État de Nouvelle-Calédonie, avec une nationalité propre, État intégré à la République. Passage au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, avant la réunion des députés et sénateurs en congrès à Versailles. Un congrès qui devra voter cette loi constitutionnelle à la majorité des 3/5, ce qui semble difficile à atteindre en raison notamment de l'opposition des socialistes et du Rassemblement national.
Les explications de Pierre Pilet. Des milliers d'agriculteurs et des centaines de tracteurs ont rendez-vous à Strasbourg aujourd'hui devant le Parlement européen pour faire pression sur les députés à la veille d'un vote sur une saisine de la justice européenne, de la Cour de justice de l'Union européenne, sur l'accord avec le Mercosur signé ce week-end par la Commission.
Au Royaume-Uni, une réforme sur sur l'alcool débouche sur un débat national.
À l'origine, ce devait être qu'une mesure de sécurité routière. Baisser de 0,8 à 0,5 grammes par litre de sang le seuil autorisé pour conduire, c'est-à-dire comme la France, mais la pression des buveurs de bière est forte. C'est la correspondance de Laura Calmus.
À Maidenhead, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres, le Dewdrop Inn est un pub entouré de champs. Pas de gare, pas de bus, ici on vient en voiture. C'est ce modèle rural que la réforme vient bousculer. Le gouvernement veut abaisser le seuil d'alcool autorisé au volant en s'alignant sur d'autres pays européens. Dans ce pub, les avis sont partagés.
C'est absurde, ça va tuer les pubs de campagne. On ne meurt pas à cause de quelqu'un qui a bu une ou deux pintes. Les accidents, ce sont des gens qui ont bu 6 ou 8 pintes.
J'ai bu une Guinness sans alcool et c'était très bien. Je serais même favorable à un seuil à zéro, comme dans certains pays d'Europe de l'Est.
Et pour son propriétaire, Marius Pretorius, la mesure arrive au pire moment. Il a repris ce pub il y a 2 ans.
On a déjà des difficultés. Le coût de la vie, les factures d'énergie, la liste est longue. Et cette réforme vient s'ajouter, rendant les choses encore plus compliquées.
Une accumulation notamment sur les taxes qui inquiète les pubs depuis des mois. La colère est visible, certains établissements refusent même l'entrée aux élus travaillistes. Face à la polémique, le gouvernement tente de calmer le jeu et devrait faire marche arrière sur cette hausse des taxes. Un geste d'apaisement alors que près de 400 pubs ont fermé l'an dernier au Royaume-Uni.
La correspondance au Royaume-Uni de Radio Classique. Et puis, une tempête solaire majeure touche la Terre. Elle a commencé hier, continue aujourd'hui avant de perdre en intensité. Provoquée par une forte éruption solaire, elle peut provoquer des perturbations sur les réseaux électriques et satellitaires, mais aussi d'impressionnantes aurores boréales.
Merci Charles, vous revenez à 8h30 pour le rappel des titres. Vous parliez de tempête solaire, on va parler d'une tempête sur l'ONU. Donald Trump crée un conseil de la paix pour Gaza et y convive Vladimir Poutine. Et ce conseil de la paix pourrait même concurrencer les Nations Unies. Ne ratez pas l'écho du monde dans un instant, car le monde est en train de changer et il change vite. Radio Classique, 7h41.
Samedi prochain, retrouvez la chronique Bleu comme le monde avec Caroline Forge.
Cette semaine, nous verrons comment la société civile peut se mobiliser pour soutenir des projets scientifiques de protection de l'océan.
Bleu comme le monde, le rendez-vous dédié à la préservation de l'eau sous toutes ses formes, chaque samedi à 8h54 sur Radio Classique.
Bleu comme le monde, avec Banque Populaire, la banque de la voile et du surf, engagée pour la préservation de l'eau.
Envie de vous offrir la qualité allemande à prix Opel?
Yes, of course.
Une Corse avec Apple CarPlay et Android Auto?
Yes.
À partir de 15 900 euros et jusqu'à 8 ans de garantie spéciale offerte?
Yes.
Rendez-vous en concession pendant les portes ouvertes pour vous offrir Opel Corsa.
Yes. Of course.
Offre réservée aux particuliers sur Corsa édition 100 chevaux. 5 000 euros déduits non cumulables jusqu'au 31 janvier dans le réseau participant. Garantie spéciale Opel, détails sur opel.fr. IS égale oui. Pensez à covoiturer.
Chez Air Caraïbes, ils ont du XXL.
Du XXL ?
Eh oui, confort XXL pour voyager en classe premium économie dès 999 euros ou en classe affaires à partir de 1499 euros.
Pour aller où ?
Guadeloupe, Martinique, bref, toutes les destinations Air Caraïbes. Tu vois, je te l'avais dit que j'avais besoin du XXL.
XXL pour la classe, le siège et le service aussi.
Jusqu'au 22 janvier 2026, profitez des instants promo d'Air Caraïbes et voyagez avec un confort XXL. Rendez-vous sur aircaraïbes.com. Offre soumise à condition.
Air Caraïbes, la compagnie haute en couleur.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Christian Macarion à 7h43 pour l'écho du monde. Bonjour Christian.
Bonjour David.
Nouvelle surprenante, pour ne pas dire incroyable, Vladimir Poutine a été contacté par l'administration Trump, qui lui-même a confirmé ce matin, pour faire partie du Conseil de la paix qui va présider à la reconstruction de la bande de Gaza. Le reste du casting, on va appeler ça comme ça, de cette nouvelle organisation, est tout aussi stupéfiant. Parlez-nous de ce Conseil de la paix. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça va servir ?
Eh bien, le Conseil de la paix, présidé par Donald Trump en personne, doit se pencher sur le renforcement des capacités de gouvernance, les relations régionales, la reconstruction, l'attraction des investissements, le financement et la mobilisation des capitaux, tout cela afin d'œuvrer à la reconstruction de la bande de Gaza. Mais là où tout change de dimension, c'est que plusieurs dirigeants étrangers ou d'éminents conseillers de ces derniers ont déjà reçu reçu une invitation de la part de l'administration Trump pour rejoindre ce Conseil de la paix. Et parmi ces personnalités internationales, on compte le Premier ministre de l'Albanie, le président argentin Javier Milei, le président brésilien Lula, le Premier ministre canadien Mark Carney, mais aussi le président turc Recep Tayyip Erdogan, le roi de Jordanie Abdallah II, Madame Meloni, Viktor Orban, qui a dit oui d'ailleurs tout de suite, mais il y a aussi le Premier ministre vietnamien, Mohamed VI, le roi du Maroc, bref, le roi du Maroc qui lui-même a accepté. Le casting est très vaste et, comme on peut le voir, malgré des exceptions comme Lula, il s'agit souvent de profils proches du courant autoritaire cultivé par Donald Trump.
Alors, il y a ce Conseil de la paix, et puis il y a deux autres entités, Christian.
Oui.
À quoi vont-elles servir ?
Alors, il y a d'abord le Comité palestinien de gouvernance, qui est un organe technocratique qui vise à superviser le rétablissement des services publics essentiels à Gaza. Et puis, ce conseil est composé de 15 personnalités et présidé par un ancien vice-ministre palestinien, Ali Shaat. Et puis, il y a l'Executive Board, qui est la troisième entité à Gaza, qui doit contribuer à soutenir une gouvernance efficace.
Alors, il y a ce conseil de la paix, mais la surprise du chef, si j'ose dire, c'est qu'il a une vocation qui va bien au-delà de Gaza. Et c'est ça qui est le plus préoccupant.
Alors, c'est ça qui est le plus frappant ce matin dans cette initiative de Donald Trump, c'est que Donald Trump veut créer, au-delà de Gaza et à partir de Gaza, un conseil de la paix, si j'ose dire mondial, complètement à sa main pour œuvrer à la résolution des conflits dans le monde en concurrence avec l'ONU. Alors évidemment, Donald Trump serait le président, le premier président du conseil de la paix, dont les pouvoirs sont très étendus, puisque Trump serait le seul habilité à inviter d'autres chefs d'État et de gouvernement à l'intégrer. Il pourrait aussi être le seul à révoquer leur participation et leur participation dépend de conditions pour le moins choquantes, d'après ce que l'on sait. Parce qu'une indiscrétion nous a permis d'apprendre qu'un document de 8 pages établit le fonctionnement, la charte, si l'on peut dire, de ce Conseil de la paix. Et qu'apprend-on ? Que ce Conseil de la paix, on pourra y adhérer en tant que membre permanent à condition de verser $1 milliard, sinon on pourra y participer en tant que membre temporaire, sachant que le mandat ne dépassera pas 3 ans. Donc payer pour être un membre permanent et sinon passer son chemin au bout de 3 ans en étant un membre temporaire.
C'est comme un club de golf de luxe.
Oui, c'est un mélange de copies révisées de l'ONU et de clubs de capitalistes. C'est quelque chose d'extrêmement hybride. Alors d'ores et déjà, il y a des pays, je le disais tout à l'heure, qui ont accepté, ou des personnalités, comme le roi Mohamed VI du Maroc, comme Viktor Orban en Hongrie. Mais la France ne participera pas. Le Canada a accepté de participer, mais sans verser $1 milliard. On est là dans une sorte de confusion incroyable, et c'est typiquement trumpien d'avoir une nouvelle fois complètement changé les règles, renversé la table et brouillé les cartes.
Ce que je retiens aussi, c'est cette bifurcation entre les ambitions politiques de Trump pour Gaza et les ambitions de Benjamin Netanyahou. Là, il y a séparation.
Oui, il y a clairement divergence parce qu'Israël, avec ce Conseil de la paix, perdrait la maîtrise exclusive qu'il a sur Gaza, et ça ne convient pas du tout à Netanyahou.
Christian Macarian, l'écho du monde, affaire à suivre avec ce Conseil de la paix. Notez, Christian, qu'à 8h15, je recevrai Philippe Etienne, ancien Sherpa du président de la République et ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Il publie Le Sherpa, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire chez Talendier. Dans un instant, le journal imprévisible, les patrons en colère, c'est aussi une longue histoire. Marc Bourreau vous la conte avec ses photos sonores. Radio Classique, 7h48.
T'es où ?
Je me suis perdu. Trop d'offres ?
Bah, on est là pour les soldes.
T'inquiète, j'ai déjà réservé une croisière Costa, tout inclus.
Ok, on se retrouve à la sortie alors.
Ne ratez pas les soldes Costa. Réservez votre croisière d'été avant le 3 février avec 300€ de réduction par cabine. Info en agence ou sur costacroisière.fr. Costa.
Ça ira, chez Citroën, nous on ira. Ça ira, nous ce qu'on veut, c'est des prix bas.
pendant les journées révolutionnaires. Profitez de prix canon,
canon, canon, canon
sur tous nos modèles Citroën chez l'un de nos 1300 agents partout en France.
Ça ira. Des journées comme ça, on attend que ça.
Citroën. Offre valable jusqu'au 31 janvier dans le réseau d'agents participants.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle ?
Ah non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météos, elle débute, hein. Elle n'est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non ?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentiel, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Radio Classique, le journal imprévisible.
Avec Marc Bourreau à 7h49. Bonjour Marc.
Bonjour David, bonjour à tous.
Fiscalité, charges, incertitudes, les patrons vent debout contre les arbitrages budgétaires à quelques heures de leur adoption à l'Assemblée nationale. Colère du MEDEF, parallèlement 2000 chefs d'entreprise ont lancé leur mouvement apolitique. Trop c'est trop. On en parlait avec la voix dans les voix de l'économie à 7h15. Quand les patrons se rebiffent, une histoire qui ne date pas d'hier.
Eh oui, côté pile, il y a la lune de miel, David. Belle comme un pin's, 1 million d'emplois offerts par François Hollande au président du MEDEF, Pierre Gattaz.
1 million d'emplois, aujourd'hui, symbolisés par ce pin's que je porte à la boutonnière.
Belle comme des déclarations d'amour du ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
C'est vous qui allez la construire, cette France juste et cette France fière. Vous êtes, vous, entrepreneur, une de mes raisons d'espérer dans la France.
En passant par Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron ou encore ce premier ministre, Manuel Valls, souvenez-vous de cette formule célèbre il y a 10 ans.
J'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise.
Je vends des robes, des pulls et des manteaux, des bas, des gants, des jupes, des pantalons.
Et pourtant, côté face, quand ça va mal, les entreprises se rebiffent. Ou plutôt, les petits commerçants. Bien avant les bonnets rouges en Bretagne et la révolte des pigeons en 2013, il y avait 60 ans plus tôt la révolte de Saint-Céré dans le Lot.
D'apparence, c'est le type même du français moyen. Brun, avec des yeux clairs, il a 34 ans, une famille et 4 enfants. Les mots de liberté, de fraternité, de patrimoine, de maire de France ponctuent ses propos.
1953, David, un papetier réunit artisans et commerçants sous la bannière transpartisane du ras-le-bol fiscal. Son nom, Pierre Poujade.
Devant le contrôleur ou le percepteur, ce n'est pas un communiste ni un RPF, ce sont deux tendus.
Poujade, populiste, anti-parlementariste, nationaliste, une fronde et un parti Union et Fraternité Française qui envoie 52 députés à l'Assemblée, parmi eux un jeune débutant du nom de Jean-Marie Le Pen.
Je vous ai dit, nous rentrerons au Palais Bourbon, nous secourons le cocotier. Est-ce que nous ne l'avons pas secoué, le cocotier ?
La riposte des petits commerçants crée nos coups de poing quelques décennies plus tard. Dans les années 70, des centres d'impôts, de l'assurance maladie et même des supermarchés sont carrément pris pour cible par les travailleurs indépendants du Cidunati.
Une épaisse colonne de fumée se dégageait derrière l'hypermarché. Des manifestants avaient mis le feu dans une réserve de cajou à l'extérieur de l'édifice.
À la tête du mouvement, Gérard Nicou, tenancier d'un bar-restaurant dans l'Isère. Plusieurs passages devant la justice, plusieurs passages aussi à la télévision.
Il n'y a pas de différence entre le petit commerçant de gauche et le petit commerçant de droite. Pour moi, il y a des commerçants et des artisans qui souffrent.
Et ça peut aller jusqu'où ?
Très loin.
5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République.
1980, la France passe à gauche. Alors faut-il ouvrir le dialogue ? Les chefs d'entreprise sont partagés. Faut-il tendre la main, même un peu ferme, comme l'entrepreneur star des années 80, Bernard Tapie ?
Il n'y a rien de plus redoutable de vivre dans un système capitaliste avec des gens qui ne le sont pas. Si vous ne l'acceptez pas, c'est dire à un sportif, tu vas courir dans l'absolu, mais surtout le chronomètre, ça ne t'intéresse pas.
Ou bien faut-il passer la vitesse supérieure, comme l'ancêtre du MEDEF, le CNPF.
La réunion historique de ce jour n'est pas une manifestation politicienne.
Décembre 82, face aux nationalisations, à la hausse de la fiscalité, le patronat et son leader Yvon Gattaz réalisent un tour de force. 20 000 personnes rassemblées à Villepinte, 1 mètre carré par participant, la salle pleine, a craqué pour lancer la fronde des forces vives.
Nous demandons pour nos entreprises la liberté des prix et des salaires, la liberté d'innover, d'exporter, d'importer, en un mot, la liberté de vivre.
20 000 personnes à Villepinte. Qui dit mieux ? 25 000 en 99 au parc des expositions à Paris. Dans le collimateur, cette fois, les 35 heures. Cette mesure qui avait fait bondir le président de la CNPF de l'époque, Jean Gandois.
Nous avons été bernés tout au long de la journée. Il va sans dire que nous avons perdu une bataille, mais que nous n'avons pas perdu la guerre.
Et pousser son successeur, Ernest-Antoine Sellière, à faire un constat plutôt amer.
Vous savez, le CNPF, de toute manière, ne dispose que d'une petite épée de bois. C'est une organisation qui n'a absolument aucun pouvoir. Quand on le compare à celui de l'État, qui a tous les pouvoirs, ou même celui des syndicats qui, eux, peuvent bloquer les services publics.
Y aura-t-il une fronde ? D'où partira-t-elle ? Des artisans commerçants ou du MEDEF ? Malgré son échec à mobiliser l'automne dernier, quand les patrons se rebiffent, David, ce sont des épées de bois et quelques épées de Damoclès.
Ma petite entreprise connaît pas la crise.
Marc Bourreau, son journal imprévisible à retrouver sur l'application Radio Classique. À suivre, David Barou, on parle encore d'économie. David qui évoque les défaillances d'entreprises et les chiffres ne sont pas bons. Radio Classique, 7h54.
Pour garantir la réussite de votre transformation, faites équipe avec Valtus, leader français et mondial du management de transition. Depuis 25 ans, nous sécurisons vos transformations et vos projets stratégiques. Valtus, c'est 60 000 dirigeants expérimentés dans 28 pays, mobilisables immédiatement. Partenaire de l'édito Eco, Valtus réalise plus de 1 000 missions chaque année.
Depuis 50 ans, vous accompagnez face aux enjeux de la vie des affaires et la vocation de Delsol Avocat. À l'écoute des besoins des acteurs de l'économie, nous proposons au-delà des conseils juridiques et judiciaires, une véritable stratégie d'entreprise. Delsol Avocat, la qualité de la relation. Et avec Delsol Avocat, retrouvez les voix de l'économie chaque matin sur Radio Classique.
Toyota. Production française qui se vend chaque année comme des petits pains. On dit que je suis fantastique. Je suis...
La baguette ? Le croissant ? Non, la Toyota Yaris Cross Hybrid.
Oui, c'est la voiture la plus produite en France.
Et elle n'a jamais été aussi accessible. Pendant les reprises fantastiques, la Toyota Yaris Cross Hybrid est à partir de 239 € par mois, entretien inclus. Yaris Cross Hybrid dynamique blanc pur à partir de 239 € par mois, LLD 37 mois, 30 000 km, entretien inclus. Premier loyer, 4 390 € réservé aux particuliers dans le réseau participant jusqu'au 2 février sous conditions de reprise. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec David Barou pour le décryptage de l'économie.
Avec Invivo, Union des coopératives agricoles françaises, engagée pour la transition agricole.
Il est 7h56, on retrouve David Barou. Bonjour David.
Bonjour David.
Les chiffres des défaillances d'entreprises sont tombés et ils sont inquiétants.
Bah oui, ils sont sans appel. Pour la troisième année consécutive, en 2025, le nombre de défaillances a non seulement progressé, mais il s'est aussi installé très au-dessus de notre moyenne historique. La France enregistrait environ 55 000 défaillances par an il y a quelques années. Elle se rapproche désormais de la barre des 70 000, une marche haute a été franchie. Alors, on peut se rassurer en disant que les généreuses aides financières accordées sous forme de PGE et de report de charges sociales pendant et un peu après le Covid ont joué un rôle d'anesthésiant. On a retardé des chutes qui étaient inéluctables et qui arrivent maintenant depuis 2-3 ans. On peut aussi minimiser l'importance du phénomène en reconnaissant que les cessations d'activité concernent avant tout les auto-entrepreneurs et impactent donc relativement peu le marché de l'emploi car ce sont plein de toutes petites entreprises qui risquent de mettre la clé sous la porte. Mais bon, il faut quand même être lucide et ne pas se voiler la face.
Pourquoi la situation est grave selon vous ?
Non seulement la marée des entreprises en difficulté monte, mais en plus elle touche de plus en plus de secteurs dans de plus en plus de régions. Les métiers de service qui sont les plus nombreux dans notre économie sont les plus touchés, mais l'industrie qui est cruciale est loin d'être épargnée. Sur la période 2019-2025, le nombre de défaillances dites industrielles a bondi de plus de 40%. Et surtout, les experts notent qu'il y en a deux fois plus que le poids de l'industrie dans notre économie. L'industrie souffre proportionnellement plus. On note aussi de plus en plus de problèmes chez les PME, les ETI, les entreprises de taille moyenne qui grandissent. Paradoxalement, cette dégringolade ne semble guère pour l'instant impacter la France au niveau macroéconomique. Vous le savez, en 2025, notre croissance a approché les 1%. On fait mieux que le plus 0,2% en Allemagne, par exemple. Malheureusement, cette performance, entre guillemets, relative, tient, je pense, à de mauvaises raisons. Si on va un peu mieux, c'est parce que nous sommes déjà en grande partie désindustrialisés et que c'est avant tout l'industrie qui souffre de la concurrence chinoise et d'un contexte économique global pas très porteur. Nous, on est surtout une économie de service qui, par nature, est bien plus résiliente, encore plus dans un pays comme le nôtre disposant de nombreux amortisseurs sociaux. Mais la faiblesse d'aujourd'hui risque de nous priver d'un indispensable carburant demain. Si les auto-entrepreneurs ou les PME ne grossissent plus et si l'industrie continue de se déliter, franchement, on peut se demander que va-t-il nous rester.
Le décryptage de l'économie de David Barou, tout simplement. Je vous dis à demain, 8h05. Voilà, on se consolera avec ça. David, à demain. Voici Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour David, bonjour à tous.
Mais quel joli prénom.
Arsinoé.
Bah j'adore.
Ça fait penser au théâtre classique, mais en l'occurrence, celle dont je vais vous parler là, c'est la sœur de Cléopâtre, figurez-vous. Mmh. Une reine d'Égypte peut en cacher une autre, vous allez voir.
Les grands dossiers de l'histoire avec Franck Ferrand tout à l'heure, avec Arsinoé. À tout à l'heure. Les Naïcs, oui. Bonjour, rebonjour même. Les pluies s'atténuent sur le Roussillon et la Corse.
Mais attention toujours au débordement des cours d'eau et notamment dans deux autres départements, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. De fortes rafales de vent soufflent également sur la Méditerranée et cet après-midi, une nouvelle perturbation arrive par le Finistère. Les températures, 13 à Nice ce matin, 5 à Paris, 6 à Toulouse et 2 à Lyon. Et cet après-midi, vous aurez 13 degrés à Biarritz, 10 à Brest et 7 à Lille.
Vous écoutez Radio Classique et dans 35 secondes, il sera 8 heures exactement.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et les Naïcs Monnier pour le journal.
Il y a un an, Donald Trump prêtait serment, entraînant avec lui le monde dans un tourbillon incessant. Dans un sondage, les Français se disent inquiets. Ramener le déficit à 5% du PIB, Sébastien Lecornu s'y est engagé. Mais pour finir, qui va payer? Et puis il voyait la vie en rouge. Le couturier italien Valentino, l'ami du tout Hollywood, s'est éteint.
Après le journal, Guillaume Tabar.